France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT Sandinger Housey. Halia, Radio Rosana Piparis. Produce
gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Édition spéciale.
Un jour dans le monde, un jour en Ukraine.
C'est Ranok.
Ce matin, chers citoyens, ce matin est entré dans l'histoire, mais cette histoire est différente, à la fois pour notre pays et pour la Russie. L'Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu'en pense Moscou. Pour les Ukrainiens, l'indépendance et le droit de vivre sur leur terre, selon leur volonté, sont de la plus haute valeur.
C'était le 24 février 2022. Vladimir Poutine lançait en pleine nuit ce qu'il appelle encore une opération militaire spéciale. Bombardement massif sur l'Ukraine, Kiev, Kharkiv, Odessa, Mariupol. Des chars russes font leur entrée depuis le nord, l'est et le sud du pays. À ce moment-là, beaucoup prédisaient la chute de Kiev en 3 jours. 3 ans après, la Russie a gagné 20% du territoire à l'est du pays et Donald Trump a promis de mettre fin rapidement au conflit. Alors ce soir, on a envie de savoir tout simplement comment vont les Ukrainiens, ce qui les fait tenir, ce qui les divise, ce qui a changé à jamais dans leur vie. Bonsoir Andrei Kourkov.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, vous vivez à Kiev et vous publiez Notre guerre quotidienne aux éditions Noir sur Blanc. C'est le deuxième volume de votre carnet de bord, dont certains billets ont été publiés dans le Financial Times. D'abord, tout simplement, Andrei Kourkov, comment allez-vous alors que votre pays va entrer dans sa 4e année de guerre ?
Je suis fatigué comme je pense tous les Ukrainiens.
Fatigué de quoi ?
Fatigué de ne pas dormir si je suis à Kiev, parce que les gens dans les grandes villes ne peuvent pas dormir. Il y a des alertes, des sirènes chaque nuit, quelquefois. On se réveille, on regarde l'Internet pour les raisons des alertes. Si c'est les drones, on se cache dans le couloir. Si c'est les missiles balistiques, il faut courir vers abri anti-bombe ou métro. Et bien sûr, après, le matin, les gens partent pour le travail. Ils essayent de mener la même vie qu'auparavant. C'est bien sûr, c'est pas possible. C'est un peu possible si vous êtes loin de la ligne de front et loin des usines, par exemple, des stations électriques
qui sont régulièrement bombardées.
Des missiles, mais bien sûr, chaque nuit, il y a plus qu'une centaine et demie de drones qui attaquent les grandes villes et les petites villes d'Ukraine.
Alors, Volodymyr Zelensky s'est fait traiter hier de dictateur sans élection par Donald Trump. Le président américain menace, il ferait bien de réagir rapidement, dit-il, sans quoi il n'aura plus de pays. Et il l'accuse par ailleurs d'avoir déclenché la guerre. Quel effet ont eu ces propos sur vous, Andrei Kourkov ?
Oui, c'était choquant d'entendre les mots de Trump, mais en fait, après la conversation entre Trump et Poutine il y a quelques jours, les gens étaient déjà choqués. Ils ont compris qu'en fait, c'est deux amis, deux partenaires de business qui vont décider comment on arrête la guerre très vite pour recommencer le commerce, pour recommencer les relations, pour ouvrir le marché russe pour les produits américains, pour les technologies américaines.
Pas de paix en Ukraine sans l'Ukraine, dit votre président. Est-ce que vous avez peur pour la suite ?
Oui, j'ai peur, mais j'ai aussi compris qu'en fait, l'Ukraine va résister aussi après les rencontres entre Poutine et Trump. Les soldats, les militaires ukrainiens ne croient pas dans les négociations. Et maintenant, c'est encore les civils, les populations, les gens civils qui pensaient que peut-être Trump va faire quelque chose pour la paix juste pour l'Ukraine. Et ils ont perdu cet espoir et ils se préparent pour continuation de la guerre. Bien sûr, c'est la situation dure économiquement, mais jusqu'à aujourd'hui, le pays a survécu, le pays fonctionne, il y a beaucoup de changements, la vie est complètement différente, aussi pas seulement démographiquement. Mais par exemple, les régions d'ouest du pays qui étaient agricoles et mal populées, maintenant deviennent les régions industrielles après la relocalisation des usines, des fabriques, des business privés.
Alors, on en est à 3 ans de guerre, et je sais que ça vous agace qu'on dise ça, Andriy Kourkov. Vous considérez-vous qu'en fait, cette guerre avec la Russie, elle a commencé le 20 février 2014, après l'assassinat des manifestants du Maïdan et à la suite de l'annexion de la Crimée. Donc en réalité, c'est le 3e anniversaire du moment où le monde démocratique a vu clair et a bien compris que ce n'était pas une affaire intérieure avec la Russie. Est-ce que cette fois, les démocraties ont bien les yeux grands ouverts, à votre avis ?
L'Ukraine va rester un pays démocratique. C'est, oui, c'est 11 heures de la guerre, mais en réalité, comme la guerre est battue sur 3 niveaux, c'est 11 heures de la guerre pour le territoire d'Ukraine. Oui. Et c'est 300 ans de la guerre contre l'identité ukrainienne, contre la culture ukrainienne, la langue ukrainienne. En fait, la première bataille des guerres russes ukrainiennes, c'était la bataille de Poltava en 1709 et 1720. Pierre le Grand a signé la première loi interdisant les publications des livres et des textes religieux en ukrainien. C'est-à-dire, pour les Ukrainiens, c'est la continuation de beaucoup de guerres, beaucoup de tragédies qui sont tous liées à Russie, à l'Empire russe, à l'Union soviétique.
Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Du service international de Radio France, merci de nous avoir rejoints. Vous avez été une de nos envoyées spéciales régulières en Ukraine depuis le début de la guerre. Vous connaissez bien aussi les questions géopolitiques. Comment voyez-vous la suite ? Est-ce que Donald Trump est pressé d'en finir, en fait, quitte à taper dans la main de Poutine ?
Voir la suite, je ne l'ai pas. On le voit tous les jours, plusieurs fois par jour, on assiste à une accélération telle du temps géopolitique que c'est difficile de prévoir la suite. Est-ce que Trump veut en finir ? Donald Trump l'a dit dans sa campagne, c'était un de ses objectifs, mettre fin le plus vite possible à la guerre en Ukraine. Il se donnait 24 heures pour le faire, puis 100 jours. Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine pour plusieurs raisons. Il veut continuer de toute façon le désengagement des États-Unis des questions internationales qui ne menacent pas leur intérêt direct. Et ça, c'est pas lui qui l'a amorcé, ce mouvement. Il a déjà été amorcé par Barack Obama et théorisé par Barack Obama. Donc Donald Trump continue là-dessus, sur cet élan-là, à sa façon. Donald Trump voit le monde en rapport de force. Il ne traite qu'avec les puissants. Pour lui, l'Ukraine ou l'Union européenne ne sont pas des puissants. Vladimir Poutine l'est. Donald Trump voit le monde à travers le dollar, à travers le transactionnel, à travers le business. Comme vous l'avez dit, Andriy Kourkov, il y a quelques minutes, c'est une affaire de business. Les industriels américains, l'économie américaine a besoin de refaire du commerce avec la Russie.
Il veut faire main basse sur les métaux rares.
Voilà. Donald Trump dit, je veux un retour sur investissement. Ça fait des années qu'on vous file de l'argent. Eh ben, je veux être payé. Alors là, comme Donald Trump vit dans une réalité alternative et vit dans un monde qui, dans sa tête, ne s'embarrasse pas de droit, de justice, de règles, quoi que ce soit. Alors, il falsifie tous les chiffres. Enfin, voilà, on est dans des sommes qui sont complètement.
Bah, il l'a multiplié par 3, en fait.
Oui, oui, hein.
Il a donné un chiffre sur l'aide militaire fournie.
Voilà, une aide américaine qui a bénéficié d'abord à l'industrie américaine elle-même. Mais Donald Trump, son obsession, vous le savez, c'est la Chine. C'est la Chine en tant qu'obsession commerciale. Et donc, en renouant quelque part avec la Russie, ce que Donald Trump aussi cherche à faire, c'est dévier, en fait, neutraliser aussi la Russie pour la remettre dans un rapport transactionnel entre hommes forts, hein, qui savent se parler business, et puis réaffecter son effort de défense, etc. et tout, ensuite vers la Chine. Et tout cela se fait aujourd'hui sur le dos de l'Ukraine et de l'Union européenne.
Et comment Volodymyr Zelensky peut-il exister tout de même, Andriy Kourkov ?
Oui, c'est très dur pour lui, bien sûr. Mais il en fait, après les mots de Trump, que Zelensky a que 4% des soutiens, le soutien de Zelensky s'améliorait jusqu'à 57%. Oui. Et maintenant, les gens qui critiquaient chaque jour Zelensky pour beaucoup de raisons, ils soutiennent Zelensky parce que vraiment, à cause des agressions de Trump.
Andriy Kourkov, de quelle manière la guerre a fracturé votre société depuis 3 ans ? Il y a ceux qui partent au front, il y a ceux qui échappent via des exemptions, il y a ceux qui se débrouillent pour éviter le front en achetant de fausses cartes d'invalidité, par exemple.
il y a quelques Ukraines au moment.
Est-ce qu'on en parle beaucoup de ça? Est-ce que ça crée une vraie fracture ou pas?
On ne parle pas beaucoup de ça, mais en réalité, pourquoi les élections ne sont pas vraiment possibles, les élections légitimes? Parce que 7 millions des Ukrainiens sont les réfugiés à l'étranger, aussi en France. 6 millions ou plus, c'est les Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays qui habitent pas où ils sont enregistrés comme les voteurs. 1 million de soldats sur la ligne de front où c'est impossible d'organiser les votes. Mmh. Et comme ça, bien sûr, ces trois Ukraines qui ont voix, qui ont observe dans le tableau plus grand. Mais il y a bien sûr aussi la société civile divisée entre les gens plus radicaux et moins radicaux, plus patriotes et moins patriotes. Mmh. Il y a des gens qui essayent de quitter le pays illégalement parce qu'ils ne peuvent pas quitter légalement comme ils sont les hommes d'âge entre 18 ans et 60.
Mais vous les comprenez, ces gens-là?
Oui, je les comprends. Je comprends quand les gens ont peur. Mmh. Je comprends quand les autres rejoignent l'armée volontairement. J'ai compris quand au début de la guerre en grande échelle, il y avait quelques centaines de milliers des Ukrainiens qui rentraient de l'étranger pour défendre le pays. Mmh. C'est-à-dire, l'Ukraine, c'est un pays des individualistes. Ce n'est pas la même mentalité que la Russie où les gens sont collectifs et ils font ce qu'ils ont dit par les autorités.
Alors, on ne connaît pas précisément le bilan humain de la guerre, mais le président ukrainien, il y a quelques jours sur la chaîne américaine NBC, a parlé de 46 000 soldats morts, 380 000 blessés, sans compter les civils où là, évidemment, le chiffrage est impossible, mais on comprend bien que ça veut dire que chaque famille a été touchée. Claude Guibal, vous étiez en reportage il y a deux semaines encore, sur le front. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Quand je réfléchis à cette question, je vois des visages. Je vois des visages d'une Ukraine, comme on va le dire, divisée. Je vois le visage d'un commandant de brigade, par exemple, de la brigade Anne de Kiev. Vous savez, c'est cette brigade qui a été montée à l'initiative de la France il y a quelques mois et dont on a beaucoup parlé parce que une brigade, bon, c'est 5000 hommes et sur ces 5000 hommes qui ont été une brigade fondée, lancée en août et qui, à peine formée, après un mois de formation, 1700 hommes apparemment, selon les chiffres, ont déserté cette brigade. Parce que voilà, on envoie des hommes qu'on rafle dans la rue aujourd'hui, si vous ne vous êtes pas enregistré auprès de votre bureau de conscription, on vous envoie, vous partez au front directement, et c'est un front d'une dureté, là, moi, c'était le front de Pokrovsk, d'une dureté mais irréelle, vraiment irréelle. On se bat pour traverser une route, où on perd beaucoup d'hommes, beaucoup d'armes pour 500 mètres. Un kilomètre. C'est vraiment, il faut vraiment avoir conscience de ce que c'est, de ce que vient de dire Andrei Korkov. C'est une Ukraine de visage épuisé parce que, effectivement, partout où vous êtes, toutes les nuits, il y a des alertes. La plupart du temps, les Ukrainiens regardent effectivement sur leur téléphone pour savoir si c'est des drones, des missiles ou quoi. Ils se retournent sur leur oreiller où, effectivement, ils vont se cacher. Mais vous ne dormez plus. C'est une Ukraine de gens amputés aussi. On voit ces soldats, ces gens. Mais c'est une Ukraine qui, en même temps, résiste. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vous disent « on n'a pas fait tous ces sacrifices pour ça ». S'il faut compter que sur nous-mêmes, on comptera sur nous-mêmes, parce que ne croyez pas ce qu'on vous dit, ça ne sera pas un cessez-le-feu, ça ne va pas s'arrêter. Une victoire, ce n'est pas la paix.
La société ukrainienne est-elle plus fragile ou plus forte finalement que depuis 3 ans, Andriy Korkov?
Pouf, c'est une bonne question. Il y a moins de solidarité que j'ai observé au début de la guerre en grande échelle, les premières 6, 8, 12 mois. Mais les gens qui restent en Ukraine, ils sont forts. Mmh. Ils sont plus forts qu'apparemment parce qu'ils ont plus d'expérience d'être les victimes potentielles. Ils sont habitués aux explosions, à l'air. Ils comprennent qu'ils doivent prendre les décisions pour ces familles.
Et résister.
Oui.
Et résister, en fait,
oui,
c'est un peuple de résistants qui est aujourd'hui en Ukraine. Andriy Korkov, je rappelle le titre de votre dernier livre, Notre guerre quotidienne, aux éditions Noir et Blanc, le deuxième volume de votre journal de bord. Avant de vous laisser partir, je vous ai demandé de choisir une musique ukrainienne. C'est quoi, alors?
C'est une chanson plus moderne qui s'appelle Baraban, c'est tambourine. Oui. Et j'aime ça parce que ça me donne énergie. J'ai besoin d'énergie maintenant en plus. Et le rythme pour tenir la vie.
Ben on va la partager, cette énergie. Merci, André Courcot.
Merci à vous.
Le reportage d'un jour dans le monde est en Ukraine, évidemment, mais loin de Kiev, près du front. Comment les civils vivent-ils ces soubresauts diplomatiques et cette perspective de cesser le feu que Donald Trump semble vouloir négocier seul avec Poutine ? Agathe Mahué, vous y étiez ces jours-ci, dans le sud-est du pays, avec Yachar Fazilov et Laurent Maketti, à la rencontre justement de ses habitants.
Il rentre du travail à vélo, peu avant la tombée de la nuit, dans ses habits d'ouvrier. Nous sommes à 12 km du front, tout près de Pokrovsk.
Ça va. Rien de trop difficile.
Alexandre a 59 ans, il paraît en avoir 15 de plus. Et il croit encore, dur comme fer, à une victoire militaire.
Nous avons confiance en notre armée. Les forces armées ukrainiennes ne vont pas se rendre et abandonner Pokrovsk. Si on n'y croyait pas, alors on partirait d'ici.
Il commence à nous dire aussi ce qu'il pense des négociations entre Moscou et Washington quand nous percevons le son d'un drone qui tombe. Non loin de là, nous sursautons, mais pas Alexandre, qui continue de trouver ça normal.
Il ne faut pas arrêter la guerre. On va encore tous se faire avoir par Poutine et par Trump. Poutine a besoin d'une pause pour reprendre des forces.
Il explique s'être présenté 3 fois au centre de recrutement de l'armée. On ne le prend pas.
Ils veulent des jeunes en bonne santé. Pourquoi appeler des jeunes de 18 ans ? Ce sont des enfants. Nous devrions enrôler des adultes.
Alexandre fait partie de ceux qui s'accrochent à l'idée de tout récupérer, revenir aux frontières de 1991. La guerre a commencé en Crimée, dit-il. Elle doit finir là-bas. Mais tous les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Un peu plus au sud-ouest, près d'Orekhiv, nous rencontrons Pacha. Pacha, c'est Paul en français.
Jean-Paul Belmondo.
Il a 58 ans et une petite épicerie dans le village de Tavriske, à 15 km des combats.
Chaque jour, tu ne sais pas où ça va tomber. Les gens ont tous très peur.
Avant, 3000 habitants vivaient ici. Les familles avec enfants, surtout, sont parties. Et l'an dernier, le magasin de Pacha a été détruit une nuit par l'un de ses bombardements. Il l'a réinstallé juste devant, dans un genre de conteneur.
Nous sommes des gens simples, vous savez, et il faut juste que tout ça s'arrête. Tant pis si cela veut dire figer les positions actuelles sur le front. Ce qu'il faut, c'est que l'on puisse prendre des décisions politiques, pacifiquement, sans le son des obus et des frappes. En ce moment, on nous propose de mettre en jeu nos terres rares. Peu importe, mais que tout s'arrête.
Dans l'épicerie, du poisson séché, des barres chocolatées, du café, Tetiana, la vendeuse, a 60 ans et un fils porté disparu dans la région de Kharkiv. Prisonnier ou mort, elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Tetiana, elle aussi, est prête à abandonner aux Russes une partie du pays.
Je pense qu'un mètre de terre ne vaut pas une vie humaine. Des millions de personnes se sont retrouvées sans maison, sans leurs biens, des parents sans enfants, des enfants sans parents, des couples brisés. L'Ukraine a déjà beaucoup trop souffert à cause de cette guerre.
Tetiana réclame donc la seule option possible à ses yeux.
Il faut enfermer dans une pièce les deux présidents, Zelensky et Poutine, jusqu'à ce qu'ils trouvent une forme de compromis.
Mais Pacha suit de près les derniers rapprochements entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
J'ai l'impression que Trump veut renverser la table. Mais ça n'est pas comme ça qu'on fait. Nous, les Ukrainiens, ça fait 3 ans qu'on est en guerre. Ce n'est pas pour que quelqu'un comme lui, aujourd'hui, nous parque comme du bétail.
En finir avec cette guerre, oui, mais se faire complètement avoir, non. Pacha conclut, on ne nous mettra pas à genoux.
Le reportage signé Agathe Mahué dans le sud-est de l'Ukraine avec Yachar Fazilov et Laurent Macchietti. Bonsoir Ina Shevchenko.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes une activiste et écrivaine franco-ukrainienne. Vous vous battez pour défendre les droits des femmes, notamment via le mouvement des Femen, et aussi pour la liberté d'expression. Vous êtes originaire de la ville de Kherson, dans le sud-est du pays. Quelles nouvelles avez-vous de vos proches et de vos amis là-bas ?
Les nouvelles à chaque jour sont, je dirais, presque les mêmes depuis 3 ans déjà. C'est la peur, le désespoir, c'est aussi les sons de bombardement pendant nos appels téléphoniques. Et malgré ce sentiment de résistance qui n'a pas de date d'expiration en fait en Ukraine, c'est cet esprit de... Parfois, on ressent la solitude un peu plus que les autres jours, la solitude de ces voix ukrainiennes. Et je pense que depuis ces dernières 24 heures, notamment, la solitude en Ukraine est ressentie encore une fois. Il y a un sentiment de déjà-vu, comme au début de l'invasion.
Depuis les propos de Trump ?
Oui, absolument.
C'est-à-dire que là, est-ce que les Ukrainiens se sentent encore plus en danger, en fait ?
Bah vous voyez quand les Ukrainiens qui sont massacrés pendant 3 ans au milieu du continent européen, quand ils entendent que c'est eux, que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre, que c'est eux qui sont qui vivent dans une dictature, que c'est Zelensky qui est un dictateur, donc on renverse complètement la table, on accuse les Ukrainiens pour leur propre souffrance. Avant, on a entendu que c'est aux Ukrainiens de considérer, enfin que c'est eux qui doivent faire des concessions. Les Ukrainiens se demandent, mais on a perdu chacun, chaque famille ukrainienne a perdu quelqu'un. Beaucoup de familles d'Ukraine, comme la mienne, ont perdu leur maison. Quelle concession de plus vous voulez ?
Alors, vous signez Ina Shevchenko un merveilleux livre. Intitulé « Une lettre dans l'Est » qui paraît aujourd'hui aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. C'est une fiction, mais que vous avez bâtie à partir des témoignages d'une trentaine de femmes. Un cri des vies que l'on a tenté d'éteindre, mais qui comme un obus transperce le silence, écrivez-vous. C'est la guerre racontée par celles qui la vivent à un point de vue féminin.
Oui, c'est un livre qui n'explique pas la guerre, qui raconte pas la guerre. Je crois que c'est le livre qui fait ressentir la guerre. À travers de ces voix, parce que en effet, je voulais que 3 ans après, on prend une pause des chiffres, des cartes, des arguments qui sont répétés tout le temps, les mêmes, toujours les mêmes, et qu'on revient à l'essence de chaque guerre et de cette guerre notamment. Chaque guerre, c'est l'expérience humaine. C'est une tragédie humaine. Et si vous voulez faire l'analyse, même géopolitique, d'une guerre, en vous détachant complètement de l'humain, alors c'est très simple et très, en effet, très facile de accepter l'effacement d'une nation.
Alors, le livre commence à Kherson, c'est la ville d'où vous venez, l'une des premières villes occupées par les Russes. On suit une femme, elle est infirmière en pédiatrie, et sa fille Solomia qui va à la maternelle. On suit la déclaration de guerre, la peur, la violence des bombardements, le regard vide de cette petite fille. Sous les bombes, vous parlez des arrestations, de l'odeur, des corps brûlés par l'occupant et des viols. Nos corps étaient devenus un autre trophée pour ces monstres en vert sombre, écrivez-vous. Ces viols étaient une stratégie, un moyen de nous détruire de l'intérieur.
J'ai rien inventé dans ce livre, sauf la forme. Chaque mot, chaque phrase dans ce livre, c'est une phrase prononcée par une vraie femme.
Oui.
J'ai recueilli les expériences, les vraies expériences, les vraies douleurs, le silence aussi de ces femmes, en commençant par les femmes de ma propre famille, ma sœur, ma mère qui ont survécu l'occupation russe à Kherson. Après, les autres femmes qui ont décidé de partir sur le front et se battre, les femmes qui ont vécu l'occupation, la captivité russe et qui ont été échangées après. J'ai parlé avec elles aussi quand je suis allée les chercher à Kiev, à Lviv, à Odessa. Donc ce livre n'est pas inspiré de faits réels, il est fait de faits réels.
Oui.
Il est fait des voix
que
réelles.
Vous retranscrivez et comme une fiction,
exactement.
Mais on entend toutes les voix de ces femmes et toutes les histoires de ces femmes, en
absolument.
Fait.
Absolument, et je voudrais aussi souligner que toutes ces expériences, la captivité, le viol, l'occupation, ce ne sont pas des excès de la guerre russe, c'est la stratégie de cette guerre. C'est une attaque contre les civils avant tout, parce que ce n'est pas la guerre pour les territoires. On n'attaque pas seulement le territoire ukrainien, on nie l'Ukraine, son identité, son droit à l'existence, l'identité de chaque de ces femmes est en question. Donc c'est pour cela que ce livre aussi porte ce message de patriotique et national, cet amour pour le pays aussi.
Il y a l'amour pour le pays et puis il y a l'histoire de cette femme qui a des choix, qui a des dilemmes, qui est confrontée à des dilemmes incroyables. Elle a des choix très compliqués à faire. Par exemple, rester ou partir dans une zone plus protégée. Elle a une fille qui est toute petite. Et être une bonne mère, est-ce que c'est seulement protéger son enfant ou combattre l'occupant? Et finalement, elle va partir à la guerre.
Oui, absolument. Ce moment-là, c'est en effet les paroles, l'histoire de Yana Zalewska, qui fait aussi le portrait de Yana et sur la couverture
absolument,
du livre.
Absolument, qui est cette femme qui était pilote de drone.
C'est elle qui m'a raconté exactement comment elle se pose cette question à un moment. Comment je vais regarder dans les yeux de ma fille après, dans quelques ans, et lui dire que j'ai décidé de rien faire. Pour elle, de ne pas partir au front et se battre, c'était de faire rien. Et ça m'a marqué parce que c'est cette question, pour vous dire honnêtement, c'est la question dont je souffre personnellement aussi. J'ai aussi une fille de 3 ans. Elle est née...
Ah, c'est oui, c'est, que, ça que, vous émeut, dans, ça vous émeut.
Sur la radio,
et c'est
on
ne
voit pas les yeux. Heureusement. Voilà, donc c'est cette question que je pense que beaucoup d'entre nous, ukrainiennes, mères, femmes, on se pose encore, on s'est posé depuis le début de cette guerre et on se pose encore.
À un moment, vous dites « ma génération disparaît et lorsque tout sera fini, il ne restera ni rempart ni sacrifice à contempler, seulement un vide ». Un silence. Vous pensez vraiment que votre génération est en train de disparaître?
En tout cas, c'est ce que on voit que c'est l'enjeu de cette guerre. Et en revenant à l'actualité depuis ces 24 heures, on voit que, par exemple, je vois beaucoup de mots utilisés comme négociation, une solution politique, alors que c'est un mensonge. Ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, les leaders qui se réunissent autour de la table, c'est de forcer l'Ukraine à une capitulation. Et bien sûr qu'une capitulation pour l'Ukraine signifie un effacement du pays, de la nation, et c'est ce que Vladimir Poutine veut faire, c'est ce que aussi la Russie, depuis plusieurs siècles, essaye de faire aussi.
Merci Nachef Chemko, auteur d'une lettre de l'Est publiée aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, et je précise que vous avez écrit en français et que vous écrivez très bien. On vous a demandé de choisir une musique aussi à partager avec nous, alors ?
Oui, donc c'est la chanson Oyo Luzi Chervona Kalina. C'est la chanson qui inspire les Ukrainiens depuis le premier jour de l'invasion. Le chanteur assez connu pop rock Andrei Khlevniuk a changé son guitare pour l'arme, et en troisième jour de l'invasion, alors que Kiev était sur menace, il s'est filmé avec l'arme dans ses mains. Il s'est fermé sur la place Sofievska à Kiev en chantant cette chanson qui a eu renaissance. C'est la chanson de résistance des Ukrainiens du début du XXe siècle, et aujourd'hui c'est notre hymne, notre nouveau hymne.
Merci Nachef Chemko.
А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ой, у Лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у Лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le Monde à 18h50 est évidemment consacré à l'avenir de l'Ukraine. Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir Christelle.
On va essayer d'être optimiste. Et si ces négociations entre les États-Unis et la Russie réveillaient enfin l'Europe ?
Oui, comme un électrochoc salvateur pour une Europe dans le coma géopolitique. Alors coma, le mot est un peu fort. C'est vrai, depuis l'invasion de l'Ukraine, les Européens ont agi, ils ont apporté un soutien massif, militaire et financier à Kiev, ils ont voté des paquets de sanctions contre Moscou, ils ont tenté de résorber leur dépendance au gaz russe. Mais toujours dans la douleur, dans la lenteur, prendre des décisions à 27, c'est risquer d'avoir forcément un temps de retard. Et pourtant, ces derniers jours, les Européens semblent amorcer un réveil. Ils ont d'ailleurs pour cela renversé plusieurs totems bruxellois.
Lesquels ?
D'abord la règle des 3% de déficit, camisole budgétaire inamovible jusque là. Et voici que la patronne de la commission elle-même, Ursula von der Leyen, veut assouplir l'étreinte. Les dépenses militaires, dit-elle, ne devraient plus être comptabilisées dans ces fameux 3%. Un geste d'encouragement, bien sûr, pour que les États investissent dans leur défense sans risquer les sanctions bruxelloises. Dans la pratique, cette souplesse concernera surtout les pays méditerranéens, en tout cas ceux dont les déficits sont aussi hauts que les budgets militaires sont bas. Alors la proposition d'Ursula von der Leyen doit encore être adopté par les chefs d'État et de gouvernement, mais le fait même que ces 3% ne soient plus considérés comme intouchables, c'est déjà une petite révolution culturelle.
Et autre révolution culturelle pour les Européens, dites-vous, le casting des réunions d'urgence cette semaine.
Oui, les Européens inquiets d'être mis de côté, Christelle, dans les négociations sur l'Ukraine, se sont retrouvés à Paris, mais pas à 27, non, format plus resserré, rencontre à 8 lundi à l'Elysée, puis une petite vingtaine hier en visio, là aussi souplesse maximale par rapport au grand Barnum, au sommet européen à 27, où on s'écharpe jusqu'au bout de la nuit sur un adjectif ou sur une virgule. Dans l'urgence, nouvelle philosophie, moins nombreux pour aller plus vite. Cela fait des années, que dis-je, des décennies qu'on entend parler d'une Europe à plusieurs vitesses, à plusieurs cercles. Eh bien, la voici peut-être en train de se former sous la pression des événements, des cercles de pays plus restreints et plus cohérents. Examinons, tiens, la liste des invités de ces deux mini-sommets de Paris. Le plus intéressant, c'est bien sûr ceux qui n'étaient pas là. La Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie de Robert Fico, absent, il n'avait pas été invité. Deux dirigeants qui ne cachent pas leur sympathie pour la Russie, ou du moins leur refus de soutenir l'Ukraine.
Alors tout cela dessine le visage de la future Union européenne plus mobile, plus efficace.
C'est en tout cas une première esquisse prometteuse. Elle vient confirmer d'ailleurs l'idée reçue. L'Union européenne ne se réforme que dans la crise. En somme, l'Europe boiteuse en temps de paix, sprinteuse en temps de guerre, comme au temps de la guerre financière, de la crise financière 2008. Déjà à l'époque, de nouveaux formats resserrés, quelques pays de la zone euro, pas plus, pour contrer la crise de la dette. Question désormais, que deviendra l'Europe à 27, avec ses sommets bruxellois chaque trimestre, ses tours de table chorégraphiés? Est-elle condamnée à devenir un organe formel, dépassé par le rythme de l'actualité?
Merci Frédéric. Et pour conclure sur l'avenir de l'Ukraine, les mots du philosophe et journaliste ukrainien Volodymyr Yermolenko, il déplore notre défaitisme à nous les Occidentaux.
Le niveau de déception et de découragement à Berlin et à Paris est beaucoup plus élevé que le niveau ici. Donc parfois je viens à Paris et à Berlin pour consoler mes amis qui ont le regard très pessimiste de l'avenir. Et la même chose avec l'Amérique. Je vois que dans les cercles des anti-Trumpistes, il y a vraiment de découragement. Les gars, il faut se battre jusqu'à la fin. La liberté, c'est pas un cadeau. C'est pas une bouteille de la bière que tu achètes dans le supermarché. C'est quelque chose pour quel il faut se battre et qui n'est jamais garanti.
Des propos recueillis par Nicolas Teilhard, se battre jusqu'au bout. C'est le message que nous envoient les Ukrainiens ce soir.